cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 23 juin 1994.
grands avantages de la philosophie du vivant, c'est que je peux, de l'intérieur, saisir le se movere. Mon intelligence se meut. J'ai une autonomie dans ma vie intellectuelle. Une grande autonomie dans ma vie intellectuelle. Faire de la philosophie augmente mon autonomie. C'est pour ça que les vieux pères maîtres du début de l'ordre Saint-Dominique disaient pas trop de philosophie parce que ça supprime le noviciat. Au noviciat, on vous demande de marcher à quatre pattes comme des petits moutons. La philosophie vous met debout avec le point de vue de la lucidité, de la critique, avec tout ce que ça peut impliquer. Alors, des bons pères maîtres disent ça. J'ai lu ça quand j'étais au noviciat. Pas trop de philosophie pour garder une docilité. Et ça reste ça, vous savez. Vois très bien. Je pourrais vous citer des quantités de témoignages comme ça que sur la route on rencontre. Pas trop de philosophie. Parce que ça risque de supprimer la dévotion. Pas trop de philosophie, parce que ça risque de t'empêcher d'obéir. Bon, nous faisons juste l'inverse. Il faut être conscient de ça. Parce que nous sommes persuadés que l'imaginaire est beaucoup plus dangereux que la vérité. Et que c'est l'imaginaire qui nous empêche d'être docile au Seigneur. Et d'entrer dans ce primat de l'autonomie. Et dans ce désir de la subjectivité transcendante. On est marqué par ça. Saint Thomas était avant Kant, bienheureux Thomas d'Aquin. Il était avant Descartes, bienheureux Thomas d'Aquin. Il était avant Hegel, bienheureux Thomas d'Aquin. On a une trilogie qui n'est pas commode à dépasser. Descartes, Kant, Hegel. Première année dépasse Descartes, deuxième année dépasse Kant, troisième année dépasse Hegel. Trois soupes pour dépasser ses droits. Alors il faut demander à Descartes de lui permettre de sauter au-dessus de son mouton. Kant, c'est plus un saut de mouton, hein. Je ne sais pas ce que c'est. Il faut un petit hélicoptère. Et Hegel, alors il faut vraiment monter au ciel. Et c'est vrai, je crois que chaque fois, les obstacles sont plus grands. Et nous avons ces trois obstacles. Hein. On a beau dire tout ce qu'on veut, nous vivons avec ça. Nous vivons avec ces trois grands obstacles dessus du primat de la subjectivité. Primat de la subjectivité, chez Descartes, il a commencé par ça. Les idées innées. Si j'ai des idées innées, mais j'ai pas besoin d'être à l'école. Parce que mes idées innées ne sont pas les vôtres. On va discuter, là, cherchons autodidacte. Et puis c'est tout. C'est que ça fait. Kant, c'est le point de vue de l'autonomie, d'une certaine manière. Subjectivité transcendantale, c'est l'aspect artistique. Et Hegel, c'est la vie. C'est très curieux, ces trois modalités du primat de la subjectivité. Et je crois que c'est les trois grands. Alors, en face de cela, nous devons redécouvrir l'objectivité. La différence des parties de la philosophie ne vient pas du sujet. Ça vient du concours, de la réalité que je cherche à connaître, l'homme. C'est l'homme que je cherche à connaître en philosophie. Et toujours l'homme. L'homme capable de transformer l'univers. L'homme capable de se gouverner. L'homme capable de gouverner les autres. Et pour mieux connaître l'homme, je vois l'homme dans l'univers. Il naît dans le monde. Il est dans l'univers. L'homme vivant. Et là, j'ai la possibilité de saisir mon opération vitale de l'intérieur. Et l'homme, en tant qu'il est, petit cependant, il est d'une manière très particulière, parce qu'il peut dire « je suis ». Aucune autre créature ne peut dire « je suis ». Oui. La vache, quand elle broute, ne dit pas « je suis ». Vous n'avez jamais vu. Il y a la vache qui rit, mais il y a pas la vache métaphysique qui dit « je suis ». Vous voyez la différence entre la philosophie du vivant et la philosophie première. Alors, deuxième question, comment peut-on poser une puissance vitale intellectuelle unique à partir de tant d'opérations différentes? Je suis tout à fait d'accord. Hein. Au niveau descriptif, concedo totalitaire. Au point de vue descriptif, c'est vrai. En décrivant, je vois trois opérations, je dis non, il faut trois facultés. Mais au niveau de l'analyse, je découvre qu'il y a l'intelligence et la modalité particulière de mon intelligence, qui est une intelligence qui résonne. Alors, je découvre dans la même faculté intellectuelle l'intelligence qui cherche ce qui est. Primo caditi intellectus es. C'est ça qui fait l'unité de ma vie intellectuelle. Mon intelligence, quand elle est en exercice, saisit toujours la réalité. Ceci est, je suis. Et elle oscille entre ces deux jugements d'existence, tout le temps. Mais cette intelligence, elle est dans un état de très grande fragilité. Elle a un mode rationnel. Elle devient. Vous voyez, les deux philosophes qui ont bien saisi le devenir de l'intelligence, c'est Aristote et Hegel. Mais Aristote saisit l'intelligence à travers le devenir de l'intelligence. Il n'y a pas deux facultés, il n'y en a qu'une qui a deux manières d'exercer différemment, la manière humaine et la manière propre à l'intelligence. La ratio intellectus et le modus intellectus, le mode de l'intelligence et la ratio de l'intelligence, ratio intelligentiae. Modus intelligentiae. Et ceci me permet de saisir à travers le devenir l'être. À travers l'expérience, l'être, ceci est. Tandis que Hegel ramène toute la vie de l'intelligence à la croissance de l'intelligence, à un devenir intérieur, immanent, où l'intelligence devient de plus en plus elle-même, où elle se découvre elle-même. En réalité, c'est cette découverte de l'intelligence que Hegel fait de plus en plus, vers que l'objet et le sujet vont s'identifier. Ce qui ne peut exister que pour Dieu. En Dieu, il n'y a pas de devenir. Il y a la contemplation. Pour Hegel, on peut dire que la contemplation va tout prendre, mais en réalité, ce n'est pas la contemplation, c'est la croissance de l'intelligence qui se contemple. C'est la croissance de l'intelligence qui, dans une immanence toujours plus grande, se contemple. C'est l'intellectus qui est absorbé par le devenir vital, spirituel, de la croissance de l'intelligence. C'est très étonnant, ça. Mais c'est très intéressant de voir que ce sont les deux grands philosophes qui ont compris le devenir de l'intelligence. Et que le devenir de l'intelligence, on peut le comprendre de deux manières différentes. Ou je peux pas ramener, je peux pas dire qu'Aristote conduit à Hegel. Que Hegel, c'est l'aristotélisme moderne. Certains disent ça, c'est ça qui est très curieux. Pour être vraiment aristotélicien, il faut être hegelien aujourd'hui. Ben, l'évolution, quoi. L'intelligence d'Aristote est petite à côté de celle de Hegel. Elle est tellement plus ample, tellement plus immanente. Acceptons l'évolution. Athènes est petit à côté du monde entier que nous connaissons aujourd'hui. Athènes considérait que c'était Athènes. Les autres étaient des barbares. Les Gaulois étaient des barbares. Et tous ceux de tous les autres pays étaient des barbares. Et il n'y avait qu'Athènes qui était l'intelligentsia. Hegel, lui, il est citoyen du monde entier et du ciel. Parce qu'il ramène le ciel au monde entier. Alors on dira, c'est un développement étonnant. Et je comprends très bien, c'est très séduisant. Et si j'essaie de chercher la vérité, je suis obligé de reconnaître que non, il y a une confusion latente entre intellectus et ratio, entre devenir et être. Et je ramène l'être au devenir. Le devenir étouffe l'être. Et donne, et je ne saisis plus alors ce qu'il y a de propre à l'être. Je ne saisis plus que le développement, la croissance du devenir. Alors il faudrait, vous voyez, si on était exhaustif, on devrait saisir que à chaque tournant de la croissance, on trouve cela. L'être se ramène au devenir, l'être se ramène à la croissance. Alors, vous voyez, si je reste un aspect descriptif, et quelquefois très intérieur, mais descriptif, je dirais il y a trois moments dans la vie intellectuelle. Il y a l'appréhension, il y a le jugement, il y a le raisonnement. Et comme le raisonnement, il est double. Il est une montée, une descente. C'est normal. Je monte pour descendre, je descends pour monter. Là, il y a l'induction et la déduction. Tout le mouvement d'intelligence. Si je dépasse le point de vue descriptif et que je saisis qu'est-ce qui détermine mon intelligence, vous voyez, on pourrait dire que si on s'arrête à la méthode, on s'arrête à la description. On aura trois moments dans la vie de l'intelligence. Si, au contraire, on dépasse et on regarde ce qui spécifie l'intelligence dans le réalisme, on voit que c'est l'être, sous les trois manières dont je peux le saisir. L'être, dans une modalité universelle, abstraite. L'être, dans sa modalité la plus concrète, la plus existentielle, l'être qui est l'être premier. Et cet être premier, je ne peux l'atteindre qu'à travers une démonstration, un raisonnement. Vous voyez, on voit bien ces trois grands moments de la vie d'intelligence. Mais on peut saisir aussi, au-delà de cette diversité, il y a l'unité. D'une part, oui, d'un point de vue plus critique, c'est à partir d'une opération de vie déterminée par son objet que je découvre, que je pose une puissance vitale source de cette opération. Je découvre donc ce passage est une induction. Je passe du multiple à l'un. Donc, c'est comme une induction. Je passe de blanc à blancheur. C'est l'induction la plus formelle, celle-là. Je passe de la diversité des blancs. Je passe des blancs à la blancheur. Le blanc du mur, le blanc du visage, le blanc de la neige, le blanc, vous voyez. Puis, je passe à la blancheur. Donc, je passe du concret à l'abstrait. Est-ce que tout passage du concret à l'abstrait, du visible à l'invisible, est-ce que tout passage du visible à l'invisible est une induction? C'est un très beau problème, point de vue critique. Qu'est-ce qui caractérise l'induction? Ce qui caractérise l'induction, c'est de remonter à la source. Donc remonter à un principe. Or, c'est vrai que blancheur, c'est ce par quoi le blanc est blanc. Donc d'une certaine manière, c'est remonter à la cause formelle. Et la fin de l'année, faites le bilan. L'examen est fait pour faire le bilan de tout ce que vous avez appris pendant l'année. Ce que vous connaissez, ce que vous connaissez pas. Alors vous faites le bilan. Et vous ramenez tout à l'unité. De plus en plus. La source. C'est très curieux, ce besoin de l'intelligence toujours de découvrir la source qui explique tout cela. Et c'est l'induction, ça. On remonte le fleuve. Ce que dit Peggy. Ceux qui descendent le fleuve, ils décrivent ceux qui remontent à la source. Et on remonte à la source. Or, je vois que mon intelligence est en devenir. Or, tout devenir, si je l'analyse, implique trois.
Sa signification propre qui détermine
détermine mon intelligence et qui permet à mon intelligence de connaître. Vous voyez, c'est le devenir de la vie intellectuelle qui m'oblige de poser ces deux aspects. L'intellect possible, l'intellect agent. Parce que tout devenir implique la dualité. Impossible autrement. Le devenir n'est jamais simple. Et le devenir implique toujours une dualité. Et la dualité appelle le troisième. Toujours. Puisqu'il faut que dans la dualité, l'unité demeure. Si l'unité ne demeure pas, je n'aurai plus de dualité au sens absolu. Je n'aurai plus la contrariété. Puisque les deux contraires impliquent un sujet commun. Si je n'ai que les deux contraires, je n'ai plus de sujet commun. Et donc si je n'ai que deux, je n'ai que deux. Mais si les deux sont portés dans un sujet commun, alors à ce moment-là, je comprends comment le devenir peut rester immanent. Qu'est-ce qui est le sujet commun? C'est ma connaissance, c'est mon intelligence passive. C'est elle qui connaît. C'est elle qui saisit. Et au service de cette intelligence passive, il y a d'une part l'image, fruit de mes expériences, et d'autre part l'intellect possible, l'intellect actif, qui transforme l'image pour donner la forme intelligible. Oui, c'est pour expliquer le devenir de la vie intellectuelle que je suis obligé de regarder ces deux aspects de l'intelligence qui ne s'opposent pas mais qui se complètent et qui permettent de comprendre comment c'est bien moi qui deviens intelligent et c'est bien moi qui a besoin de l'expérience pour m'enrichir de quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, pour que l'immanence soit plus parfaite, et pour montrer l'immanence absolue de l'intelligence, je ne fais plus appel à un objet extérieur, parce que cet objet extérieur demeure toujours un peu matériel. Je appelle tout simplement à la vitalité de mon intelligence. Chaque fois que je connais quelque chose d'autre, c'est moi qui le connais. Et donc je ramène l'objet que je connais à moi. Et je peux très bien, au terme, comprendre que quand l'intelligence est parfaite, elle se connaît pour se connaître et se contempler. Et donc au terme, j'ai bien ce mouvement dialectique qui s'achève dans la connaissance de moi-même. C'est plus parfait de me connaître que de connaître le petit caillou. C'est bien évident. Quand je me connais, je connais l'esprit. Or, rien n'est plus parfait que l'esprit. Donc, c'est beaucoup plus parfait de me connaître que de connaître n'importe quelle autre réalité. Et la dignité de la connaissance vient de son objet. Donc, se connaître, c'est ce qu'il y a de plus parfait. Vous êtes tous d'accord? Vous êtes tous égaliens. C'est plus parfait de connaître l'esprit que de connaître la réalité extérieure. C'est bien plus parfait de connaître l'esprit que de connaître la vache, que de connaître l'araignée, que de connaître le caillou, que de connaître l'Himalaya. Je me connais, je pense. Et je veux connaître ce qu'il y a de plus parfait. Alors ce qu'il y a de plus parfait parmi toutes les réalités qui existent au monde, c'est l'esprit. Et l'esprit, il est en moi. Je n'ai qu'à m'intérioriser et m'intérioriser de plus en plus pour arriver à me connaître. Hein, voyez comment facilement la vie implique ce repliement sur soi pour se connaître. C'est le péché capital de l'intelligence. Ça, ou plus exactement, c'est la tentation capitale de l'intelligence de se replier sur elle-même pour se connaître. En considérant que c'est beaucoup plus intéressant de se connaître que de connaître la réalité. Alors quelle est l'erreur? C'est que je ne peux me connaître que selon un mode intentionnel. Et ce que je veux connaître, ce n'est pas ce mode intentionnel de l'être, mais c'est ce qui est. Or, ce qui est, est extérieur à mon intelligence parce que mon intelligence n'est pas substantielle. Si mon intelligence était substantielle, c'est bien évident ce qui serait plus parfait, c'est de me connaître. Parce que je connerais, par moi-même, je connaîtrais l'être substantiel. Donc l'être dans ce qu'il est premier. Tandis que mon intelligence n'a qu'un mode, au point de vue de l'être, un mode second. Mon intelligence n'est pas la substance de mon être. Si mon intelligence était la substance de mon être, me connaître, ce serait ce qui est plus parfait. Et comme c'est subtil. Hein. Et donc pour pouvoir montrer que se connaître n'est pas ce qui est plus parfait, il faut comprendre que mon intelligence n'est pas en moi ma substance. C'est pour ça que la découverte de la substance est quelque chose de si important. Et c'est pour ça que l'aspect de la substance dans Hegel est volatilisé. La substantialité. Et la substantialité n'est parfaite que dans l'esprit. Et à la place de la substance, je mets la relation. Parce que dans l'ordre de l'intelligence, je peux créer des relations. Je ne peux pas créer une substance. Tout ça implique une très grande logique, très très nette, et qui explique la séduction si forte de Hegel. Parce que quand vous êtes devant ce raisonnement, mais tout le monde dit, mais c'est vrai, c'est très vrai. Pourquoi, au fond, je ne veux pas abandonner le réalisme de mon intelligence dans le jugement d'existence? C'est parce que si je quitte ce jugement d'existence, je n'atteins plus l'être tel qu'il est. J'atteins un mode intentionnel de l'être. Or, le mode intentionnel de l'être n'est pas premier, il est second. C'est le vécu. Le vécu n'est pas premier. Mais c'est subtil. Ça exige une très grande lucidité intellectuelle. Ce serait tellement agréable que ce qu'il y a de plus parfait à connaître, c'est moi. C'est tellement plus agréable. Je suis pas chaud. N'est qu'à me regarder. Regardez-moi, je suis l'être. Extraordinaire. Et au fond, c'est ça qui est sous-jacent à la pensée hegelienne. Je dis sous-jacent, c'est pas explicite. C'est explicite dans le sens que se connaître, c'est ce qui est le plus parfait. Et on reprend la parole d'Aristote. Aristote regarde que ce qui connaît, que se connaître, c'est ce qui est le plus parfait en Dieu. C'est à cause de l'être divin. C'est parce que en Dieu, l'intelligence est substantielle. Tandis qu'en moi, l'intelligence n'est pas substantielle. Mais dès que je fais de mon intelligence,